bactérie, Mycobacterium tuberculosis, qui a infecté la personne. Et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose. À cet instant-là, cette personne a la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose active. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en un seul regorge les deux phases, donc la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse, peut vivre longtemps avec sans pour autant qu'il puisse faire la maladie. Et l'OMS dit que rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, la différence, c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en phase de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, tuberculose latente et la tuberculose active.
Ah, d'accord. La différence, elle est vraiment claire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, quels sont les symptômes? Ça, c'est une question d'Alphonse Boaki. Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose?
Eh bien, les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent. La personne a une toux, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça, c'est les premiers signes cliniques. Et l'autre, c'est la fièvre. Donc, vous avez une fièvre qui traîne avec souvent des sueurs nocturnes et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'asthénie physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose.
Nous allons revenir sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz Bekel, il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose, certainement quelles sont les causes de la tuberculose pulmonaire, bien sûr, parce que là nous sommes en train de parler de la tuberculose pulmonaire.
Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires, il y a aussi le surpeuplement. Et bien évidemment, un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
Thomas Sankara veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire si et seulement si il se retrouve dans un environnement où, comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque-là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il peut bien contracter la tuberculose. Les facteurs de risque comme la malnutrition, si la personne ne fume pas mais elle est malnutrie, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la tuberculose, les mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité. Tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, et bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose.
Alphonse Boaki a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche.
Oui, les temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de deux semaines, voire plus. Donc, si aujourd'hui vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en toussant, en étant tout en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui sont en l'air et que vous êtes en contact avec ces postillons-là. Donc, le temps d'incubation peut être de 2 semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de développer la maladie sera encore un peu plus court, quoi, donc voire 2 semaines et plus.
Il faut aussi savoir si en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids, l'asthénie physique et la perte d'appétit. C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques de la tuberculose.
Et comment se fait le diagnostic? Est-ce qu'on peut le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier?
Et le diagnostic, il faut se rendre dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin. Et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, à savoir les tests intradermiques et les tests intra. Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de crachat, on fait la culture des mycobactéries et des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose.
Il y a Touré Vakaba, il dit, docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs?
Pour un patient qui présente une toux interminable, déjà une toux qui met beaucoup de temps, rend suspicieux. Ce que je le penserais, puisqu'il a dit que les examens...
Les examens n'ont rien présenté.
Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin, parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, c'est une... qui n'est pas suffisamment sensible, donc qui détecte près de 43% seulement les bacilles tuberculeuses. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, quel est le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer, essayer un autre test, par exemple si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire des tests moléculaires, pour pouvoir avoir une confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la tuberculose.
Jean-Claude de Moulaja nous écrit depuis Mbujimayi en RDC. Il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
Concernant l'hérédité de la tuberculose, puisque c'est une maladie qui est guérissable d'abord. Je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure, et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre. Alors, s'agissant de la mère qui est tuberculeuse, qui peut donner naissance à un enfant non atteint, cela est possible. Oui, une femme qui a la tuberculose peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la tuberculose, si et seulement si, pendant que la femme a la maladie de la tuberculose, elle est suivie, elle est sous traitement. Si elle est sous traitement, elle mettra au monde un enfant sain. Mais si elle n'est pas sous traitement et que cette tuberculose qui est là se complique, c'est-à-dire que devient une tuberculose qui se propage tout le long des autres organes. Par exemple, pour une femme enceinte, vous savez que tout passe par la voie hématogène, donc la voie sanguine. Et à travers le cordon ombilical, elle peut transmettre la tuberculose à l'enfant. Mais c'est des cas vraiment très rares.
OK. Je sais que nous reviendrons sur le vaccin dans notre émission de la semaine prochaine, quand nous allons parler du traitement et de la prévention aussi. Mais quelqu'un veut savoir, quelqu'un dit, j'ai été vacciné contre la tuberculose. Est-ce que je peux tout de même être contaminé encore ou bien être contaminé simplement?
D'accord. Si c'est une personne adulte, je dirais oui. Parce que le délai, le temps de l'immunité du vaccin BCG, bacille d'Ahmed Guérin, est de 10 ans. Donc, lorsqu'on atteint déjà l'âge adulte, on n'a plus l'immunité. C'est-à-dire, le vaccin qu'on a pris il y a 10 ans de cela ne nous protège plus. Bien évidemment, même si on a été vacciné dans l'enfance, dès qu'on devient adulte, oui, on peut être exposé à contracter la tuberculose.
Un autre auditeur dit, j'ai eu un contact avec une personne souffrant d'une tuberculose pulmonaire. Que dois-je faire maintenant?
Il faut se rendre dans un centre de santé, consulter un médecin pour qu'il puisse évaluer et évaluer le risque et voir dans quelle mesure vous faire des tests pour pouvoir savoir si vous avez contracté ou pas la tuberculose.
J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger?
Vous avez été contaminée. Eh bien, le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé. Si vous êtes en contact, comme j'ai dit que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre 2 semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Donc, si cette personne a si cette personne est en contact permanent avec vous, parce que ça aussi c'est un fait, donc en 2 semaines, oui, vous pourriez lui transmettre la maladie. 2 semaines et plus, voire plus, pour lui transmettre la maladie. Mais lorsqu'on sait qu'on a la tuberculose, il vaut mieux s'éloigner, c'est-à-dire s'éloigner des proches. Très souvent, le médecin juge si ça nécessite une hospitalisation. Vous suivrez tout votre traitement au niveau de l'hôpital. Mais si juste aussi que vous pouvez aller suivre le traitement à la maison, très souvent, on isole le patient. On lui met dans une chambre où il est seul. On essaie de faire attention à tout ce qui est hygiène à la maison pour ne pas, par exemple, peut-être manger dans la même assiette que la personne qui a la tuberculose. Donc, on isole la personne pour éviter qu'il puisse aussi transmettre la maladie à ceux qui sont proches de lui. Donc, quand on a la tuberculose, on sait qu'on est sous traitement. Et bien, si on est à la maison, on fait attention. On évite trop de contacts avec les autres pour éviter de propager la maladie.
Ça rejoint certainement la question d'Alphonse Mouaki qui veut savoir si quelqu'un qui souffre de tuberculose infecte aussi ses vêtements ou bien des surfaces, comme on le voit avec le coronavirus.
Oui, la tuberculose pulmonaire, oui, mais il faut que ça soit des contacts très répétés. Mais ce n'est pas comme avec la COVID-19 au toucher de tout, mais il faut que cette personne soit vraiment en contact. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a touché les habits d'une personne ayant la tuberculose, confirmer qu'on aura la tuberculose. Non, ce sont ces postillons-là. Il faut que tu sois en contact en discutant avec la personne, un contact très proche et répété. Là, oui, tu peux avoir la tuberculose. Mais ce n'est pas seulement au toucher des habits, parce que tu as touché les habits d'une personne ayant la tuberculose que tu peux avoir la maladie. Non.
À quel moment on parle de tuberculose pulmonaire contagieuse?
On parle de la tuberculose pulmonaire contagieuse lorsqu'il y a apparition des signes cliniques, lorsque cette tuberculose est active. Apparition des signes cliniques, lorsqu'il y a l'apparition des signes cliniques et que ça a été diagnostiqué, confirmé par les tests de laboratoire que la personne a la tuberculose, à cet instant-là, elle est contagieuse.
Merci. Stanislas Liwaka veut savoir quelles sont les personnes à risque, celles qui peuvent facilement être contaminées ou attraper la maladie.
Les personnes à risque qui peuvent contaminer, qui puissent se faire contaminer par la tuberculose sont souvent des enfants de moins de 5 ans, les personnes immunodéprimées, donc qui ont un système immunitaire affaibli, le cas des personnes vivant avec le VIH. Il y a aussi les personnes qui ont des antécédents médicaux, qui ont des maladies chroniques telles que le diabète, les cancers, la maladie rénale, et les personnes aussi souffrant de la malnutrition et des personnes qui consomment fortement l'alcool et la drogue. Ça, ce sont des personnes à risque.
Vous avez déjà répondu à la question de Thomas Sankara qui voulait savoir si un enfumeur peut contracter la tuberculose. La dernière question que nous avons, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, donc ils peuvent avoir la maladie, et puis, mais ils ne présentent pas des signes. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que les gens peuvent facilement se protéger de ces personnes-là? Ou bien, qu'est-ce que les gens peuvent faire, quoi?
L'OMS dit que seuls 10% des personnes infectées par la tuberculose deviendront malades ou feront de la tuberculose infectieuse à un moment donné de leur vie, 10%. Donc, ça veut dire que 90% de personnes peuvent vivre longtemps avec la tuberculose latente. C'est-à-dire la tuberculose où on est tous là, on a la tuberculose, mais on ne présente pas des signes cliniques. Et il peut arriver que notre système immunitaire lui-même puisse puisse éliminer cette infection à long terme. Donc, si on sent qu'on a des suspicions par rapport à ce qu'on ressent, la meilleure des choses à faire serait d'aller se faire consulter. Mais lorsqu'on a une tuberculose qui est latente, qui n'a pas de signes cliniques, qu'on ne fait pas la maladie, il y a moins de risques. Vraiment, tu ne peux pas contaminer parce que pour contaminer, il faut que tu aies des signes cliniques permettant de transmettre la maladie à quelqu'un.
Ah d'accord, donc s'il n'y a pas de signes cliniques, il n'y a pas de transmission.
Il n'y a pas de contagion. Il y a l'infection qui est là, mais vous n'avez pas la maladie. Vous avez l'infection parce qu'il y a le bacille, c'est-à-dire le mycobactérium qui est là, mais vous n'avez pas la maladie.
C'était notre entretien avec Mme Elion sur les modes de transmission de la tuberculose, les signes qui doivent alerter, ainsi que les personnes à risque. Madame Darrell Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. À présent, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur le nanisme. Et le bien-être et les droits des personnes souffrant de nanisme est d'actualité en Afrique du Sud. Quelles observations faites-vous de la condition des personnes de petite taille dans votre communauté? Nous avons vos réactions. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le nanisme est une condition qui cause un ralentissement de la croissance, caractérisée par une taille inférieure de plus de 20% à la taille moyenne de la population. Le nanisme peut être provoqué par différentes causes, le plus souvent génétiques. Cependant, l'achondroplasie est la cause la plus courante. L'Organisation nationale des maladies rares indique qu'environ 80% des patients souffrent d'achondroplasie due à une mutation génétique. Les 20% restants sont hérités d'un parent. Les personnes atteintes d'achondroplasie font face à certains défis du point de vue de leur santé, notamment le développement d'hydrocéphalie et des otites répétées pouvant entraîner une perte auditive. Partout en Afrique du Sud, où les personnes atteintes de nanisme affirment que les espaces publics, tels que les centres commerciaux ou lieux administratifs, ne sont pas adaptés à leurs besoins. Un groupe de plaidoyer à Johannesburg appelle à un meilleur soutien pour aider les personnes de petite taille à vivre de façon indépendante. Linda Gevatash a voulu en savoir davantage. Dilidico raconte.
Différentes, anormales et très petites, ce ne sont là que quelques-uns des mots utilisés pour décrire Olivia Radebe selon les mémoires qu'elle a récemment publiées. L'écrivaine de 27 ans dit que sa défunte grand-mère l'a encouragée à persévérer dans ses études et à vivre de manière indépendante, et c'est ce qu'elle a fait.
Vous ne pouvez pas demander de l'aide et ne pas payer quelqu'un, vous savez, parce que je n'ai pas d'emploi permanent et que l'argent que je reçois du gouvernement n'est pas suffisant pour me permettre de payer une personne pour m'aider. Ça reste un défi au quotidien, donc en d'autres termes, je dois implorer les gens de m'aider.
Il existe des centaines de pathologies qui restreignent la croissance. La chondroplasie étant la plus courante. Il s'agit d'une maladie génétique qui empêche la croissance des bras et des jambes. Olivia n'a jamais été diagnostiquée pendant l'enfance. Aujourd'hui, elle explique qu'il serait trop coûteux pour elle d'aller voir un spécialiste pour en savoir plus. La jeune femme se demande parfois quel problème de santé est à l'origine de sa petite taille.
Parce que plus tard, je pourrais avoir d'autres complications. Si j'avais été diagnostiquée plus tôt, j'aurais peut-être su que dans 10 ans, je devrais m'attendre à telle ou telle chose, que je devrais vivre d'une certaine façon, ou qu'il y a certaines choses que je devrais éviter pour avoir une longue vie.
Les soins de santé spécialisés ne sont pas disponibles de manière uniforme sur le territoire sud-africain. Les parents doivent se tourner vers les grandes villes comme Le Cap et Johannesburg pour trouver les meilleures ressources.
Dans les zones appauvries où il n'y a qu'un hôpital de jour, les parents amènent leurs enfants voir des infirmières et des médecins qui ne peuvent pas diagnostiquer la pathologie de l'enfant.
La sensibilisation aux personnes atteintes de nanisme est l'une des principales raisons pour lesquelles Pete Neal a créé l'association à but non lucratif Short Statured Persons South Africa.
Nous pouvons partager des idées, nous réunir et faire en sorte que le public sache de quoi nous parlons.
Cet homme de 57 ans dit qu'il a dû faire face à la discrimination et au manque d'accessibilité tout le long de sa vie. Pete Neal ajoute que l'organisation donne aux personnes comme lui plus de pouvoir afin qu'elles puissent défendre leurs besoins uniques d'elles-mêmes.
C'est pourquoi nous disons, rien à notre sujet sans nous. Vous ne pouvez pas décider pour nous, nous devons parler pour nous-mêmes. Nous devons être solidaires et lutter pour nos droits.
Et le pays, dit-il, commence à écouter. Le groupe de Neal a rencontré le ministre sud-africain du développement social pour discuter de leurs besoins en matière de santé et de reproduction. Il espère que ce sera la première étape pour leur apporter plus de soutien.
Les personnes souffrant de nanisme sont confrontées à des préjugés et des stéréotypes et font souvent face à d'énormes difficultés d'insertion et de prise en charge. Quel regard portez-vous sur la situation de ces personnes dans votre communauté et comment dépasser les préjugés pour mieux les insérer dans la société? Nous avons retenu cette réaction sur Facebook d'Alphonse Mwaki depuis Kinshasa. Il dit: pour insérer ces personnes dans la communauté, il est question de transcender ce mépris de leur taille et de les considérer vraiment des êtres humains à part entière. Les États doivent œuvrer à les intégrer en les plaçant dans les mêmes établissements scolaires et universitaires que les personnes à taille dite normale, faciliter l'accès à des formations professionnelles, au logement, au transport, aux structures sanitaires et emplois dans l'administration. Les structures privées devraient aussi leur offrir de l'emploi.
Voici à la fin de notre programme « Votre santé, votre avenir ». Dans la première partie, nous avions reçu Madame Darèle Guignon, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marimbabie de Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Bruno Moudou vous a présenté Carnet de santé. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Elle vous a été présentée par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.